Frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce temple qui montre encore pour quelques jours que nous sommes vraiment une église en chantier. Y a-t-il quelque chose de plus beau que cette métaphore incarnée dans ce que nous sommes ? Nous sommes venus ici pour éprouver la présence de l'Éternel, écouter sa parole, la méditer et pouvoir ensuite en faire quelque chose, la métamorphoser en acte, en engagement, en présence réelle. Alors que chacun d'entre vous se sente accueilli, se sent ici chez lui, même si ce lieu n'est que le temps d'une petite pause, parce que vous venez du Palatinat, parce que vous venez de Paris, parce que vous venez de Lunel. Avant toute chose, entendez que pour nous tous, l'Évangile est une réalité tangible. Cet Évangile qui nous dit que qui que nous soyons, quoi que nous soyons, quoi qu'on dise de nous, la grâce et la paix nous sont données en surabondance de la part de l'Éternel notre Dieu, en vertu de ce que le Christ Jésus a incarné. Alors frères et sœurs, réjouissons-nous et chantons la première strophe du cantique 473. Au cantique 473, chantons la première strophe et levons-nous pour chanter Dieu. Louons l'Éternel avec une formule que nous connaissons par le premier livre des Chroniques. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de notre Père Israël, depuis les siècles et pour les siècles. À toi, Seigneur, force et grandeur, éclat, victoire et majesté, tout dans les cieux et sur la terre. À toi, Seigneur, le règne, la primauté sur l'univers, car la richesse et la gloire viennent de ta face. C'est toi le maître de tout. Dans ta main, force et puissance, parce que tout par ta main grandit et s'affermit. Et maintenant, ô notre Dieu, nous voici pour te rendre grâce, pour célébrer l'éclat de ton nom. Amen. Chantons Dieu par le psaume 134. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 du psaume 134. Prenons place et nous reprendrons le cantique 473 pour ponctuer notre culte. Pour le moment, recueillons-nous dans la prière avec les mots d'Anselme. Seigneur, mon Dieu, Enseigne à mon cœur où et comment te chercher. Où et comment te trouver. Seigneur, si tu n'es pas ici, où te chercherai-je en ton absence? Et si tu es partout, pourquoi ta présence m'est-elle invisible? Certes, nous pouvons dire que tu habites une lumière inaccessible, mais où est-elle cette lumière inaccessible? Qui donc m'y conduira et m'y introduira pour que je t'y voie? Et puis, à quels indices, sous quels traits te chercher? Je ne t'ai jamais vu, Seigneur mon Dieu. Je ne connais pas ton visage. Alors que peut faire ton serviteur, à la fois tourmenté par ton amour et éloigné de ta face? Comprends que ton serviteur aspire à te voir, alors que ta face est si éloignée de lui. Il désire t'aborder, mais ta demeure est inabordable. Il souhaite te trouver, mais il ne sait où tu es. Il ambitionne de te chercher, mais il ignore ton visage. Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon maître, et je ne t'ai jamais vu. Tu m'as créé et recréé, tu m'as pourvu de tous mes biens, et pourtant je ne te connais pas encore. J'ai été créé pour te voir et je n'ai pas encore réalisé vraiment ce pourquoi j'ai été créé. Alors de grâce, enseigne-moi à te chercher et montre-toi, révèle ta face quand je te cherche, car je ne puis te chercher si tu ne me l'enseignes, ni te trouver si tu ne te montres. En mon désir, puissais-je te chercher et dans ma recherche te désirer. Dans mon amour, puissais-je te trouver, en te trouvant, t'aimer de tout mon être. Amen. Chantons la deuxième strophe du cantique 473. Frères et sœurs, dans la première épître de Jean, nous lisons que Dieu est amour. Oh, personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, dit l'apôtre, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. À ceci, nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, c'est qu'il nous a donné son esprit. Ainsi, frères et sœurs, parce que Dieu est amour, il est cette vérité qui nous rend libres. Libre de tous les asservissements, libre de toutes les convoitises qu'il y a dans ce monde, libre de nos propres envies et surtout libre de nos culpabilités, à commencer par cette culpabilité de ne pas être suffisamment croyant, de ne pas suffisamment éprouver la présence de Dieu, de ne pas être suffisamment fidèle à sa parole. Oui, Dieu est amour, et parce que Dieu est amour, nous sommes des êtres pardonnés. Il nous rend libres pour aimer. Parce qu'il nous rend libres d'accepter, d'être aimés, en dépit du fait que nous sommes inacceptables. Et c'est ainsi que nous pouvons accueillir son pardon, un pardon inconditionnel. Alors, levons-nous pour chanter la troisième strophe du cantique 473. Thank you. Mon frère, ma sœur, tu veux être aimé ? Alors aime ton prochain. Tu veux pouvoir parler ? Alors écoute ton prochain. Tu veux vivre la paix ? Alors apaise ton prochain. Tu veux vivre libre ? Alors libère ton prochain. Tu veux vivre heureux ? Alors réjouis le cœur de ton prochain. Frères et sœurs, voici quelques paroles qui disent l'horizon que Dieu dresse devant nous. Et si nous avons le désir de nous rendre vers cet horizon fraternel, alors nous avons là l'essence de notre foi. Notre foi, c'est de dire oui à cette perspective divine. Et notre foi, nous pouvons l'exprimer en ces termes : je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, l'Éternel règne, il est esprit, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci : alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité, la vie. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un même esprit pour former un seul corps. La victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente notre foi. Amen. Frères et sœurs, au cantique 562, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 du cantique 562. Asseyons-nous. Seigneur, nous voici devant toi pour entendre une parole qui vienne de toi. Permets que dans les paroles humaines que nous allons entendre, nous puissions chacun entendre dans notre cœur, dans notre esprit, une parole qui s'adresse à nous pour aujourd'hui. Viens toi-même nous donner ton esprit, afin que de ces paroles puisse découler la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour avancer sur notre route vers ton royaume. Amen. Le peuple hébreu est sorti d'Égypte, la maison de servitude. Il est dans le désert, en route vers la terre promise, à pied, comme vous aujourd'hui qui n'avez ni bus ni tram en ce 1er mai. Et voici un texte qui parle de nomadisme. C'est dans le livre des Nombres, au chapitre 10, les versets 35 à 36 du livre des Nombres, au chapitre 10. Quand l'arche partait, Moïse disait « Lève-toi, Éternel, et tes ennemis sont dispersés. Tes haineux fuient devant ta face. » Et quand on l'a reposé, il disait « Reviens, Israël, ce sont des myriades de milliers. Frères et sœurs, chantons la quatrième strophe du cantique 473 pour nous imprégner de ces paroles. Chers frères et sœurs, vous vous doutez bien que toute une vie de prédicateur ne suffirait pas à traiter sérieusement le thème de l'utilité de Dieu. J'en ai esquissé un aspect la semaine dernière. J'aimerais faire avec vous aujourd'hui un pas de plus, un pas nomade avec vous. Un pas de plus, c'est bien ce dont il est question, après tout, dans ces deux versets que nous avons entendus dans le livre des Nombres. Deux versets qui, vous en conviendrez, ne payent pas de mine. Deux versets qui semblent assez anecdotiques. Deux versets que, j'imagine, vous entendez pour la première fois de votre vie. Il y a quelques exceptions dans l'Assemblée que je ne voudrais pas froisser, certainement. Mais ayons cette honnêteté de dire que, déjà que le livre des Nombres n'est pas notre livre de chevet, ces deux versets sont souvent tout à fait ignorés. Et vous vous en doutez bien, à tort. Car la vérité est que ces versets ont une importance considérable, mais comme tous les versets à vrai dire. Néanmoins, ces versets sont assez étonnants parce qu'ils ont une importance considérable pour notre compréhension de ce qu'est la vie avec Dieu, en dépit d'une apparence somme toute assez anecdotique. Intéressons-nous tout d'abord au contenu de ces versets pour y découvrir que Dieu nous permet de faire face à l'adversité. Le premier verset raconte le départ de l'arche et le deuxième verset raconte le retour de l'arche. Cette arche, c'est l'arche d'alliance comme on la connaît bien, qui sert de trône à l'Éternel, et qui contient les deux tables sur lesquelles ont été gravées les 10 paroles divines transmises au peuple après la sortie d'Égypte. Il semblerait qu'il y en ait plutôt 4, mais 2 sont en petits morceaux, parce que Moïse était vraiment en colère au moment de l'épisode du veau d'or en Exode 32, et de rage, il a cassé les 2 tables qui contiennent les 10 paroles de Dieu. Si ça, ce n'est pas du blasphème, c'est qu'il n'y a vraiment pas de blasphème, et nous en reparlerons. Cette arche sera donc posée dans le temple de Jérusalem, dans la partie la plus sainte, le Kadosh HaKodashim, le Saint des Saints, derrière. C'est cette arche, qui nous la connaissons peut-être mieux sous cet angle, sera l'objet de la quête du fameux archéologue Indiana Jones dans « Les aventuriers de l'arche perdue ». Et autant vous le dire, pas retrouvé. Le verset 35 décrit l'arche d'alliance qui s'en va. Elle mentionne que Moïse prit la parole pour ordonner à Dieu de se lever, des fois qu'il ne sache pas ce qu'il convenait de faire, ce qui est suivi par deux conséquences qui, là, nous intéressent au premier chef. D'une part, les ennemis sont dispersés, d'autre part, les haineux s'enfuient. Cela signifie que la mise en mouvement de Dieu a des conséquences sur les adversaires et sur les haineux. Et convenons qu'il y a là une véritable utilité pour notre vie. Parce que les ennemis et les haineux, voilà qui parfois nous concerne. Cela rejoint ce qui est dit dans le psaume 23, lorsque le croyant exprime le fait qu'il est en mesure de se mettre à table en face de ses adversaires. Voyez, c'est une manière de dire que le croyant, sans en faire un être exceptionnel, sans en faire un surhomme, est en tous les cas quelqu'un capable de pouvoir faire face à l'adversité parce qu'il sait que l'adversité n'aura pas le dernier mot de son histoire. C'est l'expérience que la foi permet de ne pas craindre l'adversité. Et vous en conviendrez, voilà qui est quand même assez utile. La foi permet de ne pas succomber à l'adversité, qui est quand même bien pire que la tentation. Et comme cela est précisé dans le passage du livre des Nombres, la foi permet également de ne pas succomber à la haine, ce qui est infiniment précieux également. C'est loin d'être anecdotique, tout cela. Cette action divine me fait penser, pour ce qui concerne l'adversité, à l'attitude du philosophe René Descartes face aux problèmes, face aux grands problèmes de la vie. Et parfois, l'adversité, ce n'est pas quelqu'un qui nous veut du mal. Parfois, l'adversité, c'est un problème auquel nous devons faire face et qui nous semble insoluble et qui nous mine la vie, qui nous plombe la vie. Dans la deuxième partie du discours de la méthode, paru en 1637, Descartes expose les quatre règles pour agir et pour penser avec méthode. Un peu de rationalité dans notre existence. Voilà qui ne nous fera pas de mal non plus. La première règle est de ne pas fonder son raisonnement sur autre chose que des évidences. Des évidences et pas des probabilités. De grâce. La deuxième règle est celle qui va nous intéresser. C'est celle de la division des problèmes. La troisième règle, c'est l'ordre, l'organisation de la pensée. Et la quatrième règle, c'est le dénombrement, c'est-à-dire tenir compte de l'ensemble des paramètres, ne pas laisser des données de côté. Moi, je l'aurais mis plutôt en début, on en reparlera un autre jour. C'est la deuxième règle qui m'intéresse, celle de la division, qui me semble faire écho à ce passage biblique. Pour Descartes, il s'agit de diviser chacune des difficultés auxquelles nous sommes confrontés en autant de parcelles qu'il se peut. En divisant les problèmes, c'est simple comme bonjour, ils deviennent plus faciles à résoudre. Et vous le comprenez bien, il est bien plus facile de soulever 100 fois 1 kilo que de soulever une fois 100 kilos. Quand je vous dis que l'Évangile, c'est simple, bien. Il est plus facile de faire face à des petits problèmes que de faire face à un seul gros problème. Voilà ce que Dieu nous permet d'accomplir au quotidien. Il divise l'adversité et de surcroît, il fait fuir la haine. Eh bien, cette règle de la division sera formulée plus tard par Philippe de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand, auquel on prête la formule « diviser pour mieux régner ». Lui, il disait simplement « diviser et régner ». Mais c'est cela. Indépendamment de créer des divisions chez les ennemis pour prendre le pouvoir sur les ennemis, il s'agit de se dire que diviser les problèmes auxquels nous sommes confrontés est une manière pour nous de pouvoir les aborder avec plus de facilité et de pouvoir en venir à bout. La parole de Dieu n'est pas faite d'un seul bloc. Elle n'est pas monolithique, et j'emploie ce terme à dessein, puisque lithos, c'est la pierre, et déjà, elle est sur deux pierres. Donc on voit qu'elle n'est pas monolithique, sur une seule pierre. Elle se répartit en deux tables de pierre qui la distribuent en 10 paroles, à tout le moins. Ces 10 paroles, quand on y pense, rien que par leur forme, elles nous disent déjà beaucoup. Vous le savez, la première des paroles, c'est « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte de la maison de servitude ». Et toutes les paroles qui suivent sont là pour que cette liberté qui est en tête des 10 paroles ne disparaisse pas, qu'elle ne soit pas réduite à rien. Autrement dit, 10 paroles de liberté. Mais la liberté à laquelle Dieu nous appelle, ce n'est pas un bloc, ou plus exactement, lorsque la liberté est un grand bloc, on ne sait pas trop comment l'aborder. Et j'en parle à dessein parce que la liberté est le sujet de veille que notre conseil de paroisse s'est assigné. Et je peux vous dire, sans trahir le moindre secret, que les premières séances de réflexion ont été extrêmement compliquées. Parce que aborder la liberté, c'est aborder l'Himalaya. Et il n'y a pas de petit chemin, il n'y a pas de petite voie. Alors, Les 10 paroles nous aident à diviser la liberté en autant d'angles différents qui nous permettent de pouvoir la traiter à notre niveau. Dieu, c'est ce qui nous aide à pouvoir discerner la complexité de la vie, ce qui n'est pas toujours un inconvénient. Repérer la complexité de la vie, c'est pouvoir en repérer les différents éléments. Et parce que nous repérons les différents éléments, alors nous sommes à même de pouvoir les aborder les uns après les autres. La parole de Dieu nous enseigne à appréhender les sujets non pas simplement de manière globale, mais en identifiant les différentes parties, les différentes composantes. Dieu, c'est ce qui nous permet d'appréhender la vie en ses multiples composantes, en ses multiples facettes, et c'est ce qui nous permet de ne pas être dans un état d'impuissance face à quelque chose qui nous semblerait trop grand, impénétrable, surdimensionné par rapport à nous. Et d'ailleurs, dans le livre de Deutéronome, il y a cette question qui surgit, mais cette loi de Dieu, qui nous l'ira chercher si elle est au ciel? Qui nous l'ira chercher si elle est par-delà les océans? Autrement dit, si elle est inaccessible? Eh bien, la réponse est que la parole de l'Éternel est là tout près de nous, dans notre cœur. Et il ne faut pas l'imaginer comme quelque chose d'immensément grand qui serait inaccessible pour nous, mais au contraire, quelque chose à notre mesure qui nous rend capables d'appréhender la vie. Comme pour un projet d'ampleur qui sera mené à bien en étant réparti en plusieurs sous-petits projets, et donc réparti entre plusieurs personnes, c'est le sens de la responsabilité partagée, eh bien, chaque événement, chaque situation, chaque problème, chaque difficulté peut être divisé en problèmes plus modestes et donc plus facilement solubles. Dieu ne règle pas les problèmes à notre place. Ne comprenons pas ce texte comme, une fois que l'Arche d'Alliance s'en va, les problèmes disparaissent. Non. Le mouvement de l'Arche d'Alliance, le mouvement de Dieu, cette parole vivifiante, nous permet de diviser les problèmes et de pouvoir du coup les aborder nous-mêmes. Dieu relativise nos problèmes en nous permettant de diviser les problèmes en problèmes dimensionnés selon nos capacités. Autrement dit, Dieu, la parole de Dieu, c'est ce qui nous permet le travail de discernement, qui nous permet d'aborder la vie avec plus de tranquillité. Intéressons-nous maintenant à la forme de ces versets en nous plongeant dans le texte hébreu, ce qui nous permettrait d'aborder la question de la haine. Ce texte contient une particularité qu'on ne retrouve nulle part ailleurs et que l'on ne voit pas dans nos éditions françaises. Vous voyez, vous seriez bien affichu dans ce passage biblique de savoir où se trouvent les deux versets que je vous ai lus. Ils sont écrits à la suite. Bon. Dans le texte hébreu, les choses sont singulièrement différentes. Vous le voyez, il y a une bizarrerie dans ce texte. Il y a un passage qui n'est pas du tout composé de la même manière. Ce sont nos deux versets. Ici, ce bazar, ce sont nos deux versets. Vous voyez, il y a du blanc, il y a des décalages. Et puis, il y a au départ et à la fin de ce texte, deux signes qui n'apparaissent nulle part ailleurs dans la Bible. Deux signes qui ne sont pas des lettres, au sens strict du terme, mais qui sont une des lettres de l'alphabet mises à l'envers. Ce sont deux noun, un peu l'équivalent de notre lettre N. Que viennent faire ces deux signes au début et à la fin de notre texte, qui, vous le voyez, cesse de devenir anecdotique? C'est un texte capital. Il bénéficie d'un traitement semblable à nul autre. Ces deux lettres à l'envers ne peuvent que susciter notre curiosité. Et cela pourrait déjà suffire à ce que vous ayez envie d'apprendre l'hébreu. Comme vous n'aurez pas le temps de l'apprendre d'ici la fin de cette prédication, je vais vous donner les éléments nécessaires. Et je vais faire appel aussi au Talmud, qui, vous vous en doutez bien, s'est largement intéressé à ce passage bizarre. Dans le traité Shabbat, au feuillet 115 et 116, il y a une discussion sur ce passage biblique avec plusieurs hypothèses, dont je vous résume les deux principales. Dans le Talmud, cette question donc est abordée, et comme vous pouvez le supposer, elle apporte des réponses variées. La première réponse, celle de Rabbi Yehuda Hanassi, est que ces signes nous enseignent que ce passage constitue un livre lui-même. Oui, c'est assez étonnant, mais ce ne sera pas assez anecdotique pour que ce soit oublié, puisque cette petite discussion fera dire au rabbin que si un jour votre bibliothèque part en feu, eh bien, la question est de savoir s'il faut sauver les livres ou pas. Enfin, si votre maison part en feu, est-ce qu'il faut sauver votre bibliothèque ? Et la réponse est, il faut sauver tous les livres qui contiennent au moins 85 lettres, le nombre de lettres dans ce passage biblique. Évidemment, si le nom de l'Éternel est inscrit dans le livre, il faut le sauver aussi. Mais c'est le critère à partir duquel il faut sauver un livre. 85 lettres, le nombre de lettres dans ce passage biblique. Une autre réponse est proposée. Ces signes sont la trace de points qui étaient autrefois écrits sur chaque lettre de ce passage biblique. Et là, il est vrai qu'il y a quelques passages dans la Bible hébraïque où il y a des points au-dessus d'un mot. Par exemple, vous savez qu'il y a un petit conflit entre Jacob et Ésaü, et puis il y a cette fameuse nuit près du Yabok où Jacob lutte avec un personnage mystérieux, et au moment où la nuit touche sa fin, il demande une bénédiction, et c'est là que l'ange lui dit « Tu t'appelais Jacob, désormais on t'appellera Israël, car tu as lutté avec Dieu. » Et juste après, Ésaü vient à sa rencontre. C'est vraiment deux frères ennemis au sens strict du terme. Et le texte hébreu dit qu'ils s'embrassèrent. Et le verbe est surmonté de petits points. Les rabbins disent que c'est les traces laissées par les dents dans le cou de Jacob. Il l'a embrassé avec les dents. Une autre façon de comprendre ce passage est qu'il faut le comprendre de manière ironique, au sens où, justement, ce serait l'inverse. On imagine bien que Ésaü va mordre Jacob tellement il a de la haine et du ressentiment, mais en fait, il l'embrasse véritablement parce qu'il y a une réconciliation. Pourquoi y a-t-il réconciliation ? Ça sera l'objet d'une autre prédication. Ces points étaient donc inscrits sur l'ensemble de la phrase. Et pour faciliter la lecture et la recopie de ce texte, tous ces points ont été rassemblés en un point. Nekoudot, c'est un point au départ, un point à l'arrivée. Nekoudot, en hébreu, ça veut dire point au pluriel. Et le Noun, vous l'entendez bien, est la première lettre de ce mot. Et donc, on a gardé juste cette initiale que l'on a mis au début et à la fin et qu'on a retournée pour que le lecteur se doute bien que ce n'était pas une lettre appartenant au texte, dans la mesure où dans l'hébreu, il n'y a pas de voyelle, il n'y a que les consonnes. Et donc, la lecture aurait été compliquée si on avait rajouté des lettres en plus. Donc, on crée une initiale que l'on met à l'envers pour indiquer qu'il y avait toute une série de points sur ce passage. Alors, pourquoi une série de points ? Eh bien, la réponse est assez étonnante, mais elle est assez sympathique. C'est pour dire que ce passage biblique n'est pas à sa place. Ce passage biblique ne serait pas à sa place. Ce passage biblique qui fait partie de la Torah, vous l'entendez bien. Eh bien, vous voyez, c'est par ce genre de détails que nous comprenons que la forme de la Bible hébraïque, notamment de la Torah, a son importance. Et comprenez bien que ce que je viens de vous dire ne change pas le sens de ce texte. Il l'accomplit, il l'approfondit. Il permet de donner un élément d'interprétation supplémentaire. En effet, ce passage biblique qui décrit le mouvement de l'arche est lui-même un texte en mouvement. C'est une manière de dire que ce texte est non seulement un texte qui fait la promotion du mouvement, mais aussi un texte qui est lui-même le mouvement. C'est un texte qui porte le nomadisme à son sommet, au sommet de la réflexion biblique, en liant la résolution des problèmes et la gestion de la haine par le nomadisme, par le mouvement de l'Éternel. Et je ne m'étendrai pas sur ce point, mais songez que c'est le décalogue qui est à l'intérieur de cette arche d'alliance. Et c'est donc le décalogue qui est appelé à être toujours en mouvement. Ici, le nomadisme devient un idéal qui nous permet de ne pas succomber à l'adversité ni à la haine. Je dirais que c'est une guerre de mouvement plutôt qu'une guerre de tranchées. En tous les cas, ce n'est pas la ligne Maginot. C'est la légèreté de David contre la pesanteur de Goliath. Et c'est David qui gagne. Ceci est particulièrement précieux pour ne pas succomber à la haine. Alors peut-être que comme cela, ce n'est pas évident, mais en y réfléchissant, c'est d'une puissance assez intéressante. Parce que, au fond, ce que dit ce texte biblique, c'est que si nous pouvons échapper à la haine, c'est que la haine ne nous concerne pas. La haine ne concerne que ce qui est arrêté ou figé, quand on y pense. Quand une parole de haine nous est adressée, eh bien, la vérité, c'est que nous ne sommes déjà plus la personne à qui elle s'adresse. Cette haine s'enfuit des faces de l'Éternel, pour reprendre l'hébreu au plus proche du texte, parce que l'Éternel est en mouvement, alors que la haine se développe chez ceux qui sont fichés en terre, ceux qui ne bougent pas, ceux qui n'évoluent pas. Les plus haineux, quand on y pense, sont les plus nostalgiques de la période de leur enfance et qui, d'une certaine manière, n'ont pas voulu accueillir cette vérité fondamentale qui est que le vivant est dynamique, que le vivant évolue, que le vivant se métamorphose, qu'il ne cesse de changer, ou alors ce n'est pas le vivant. Nous-mêmes, nous ne serons pas tout à fait les mêmes en ressortant de ce temple. Alors imaginez, au bout de quelques années. Et cela vaut dans tous les domaines de la vie. L'Arche d'Alliance est l'objet nomade par excellence. C'est un coffre en bois d'acacia, avec des anneaux d'un côté, des anneaux de l'autre, qui permettent de passer des barres. Une barre ici, une barre là, pour qu'elle puisse être transportée par les prêtres lévites. Même quand elle sera installée dans le temple de Jérusalem, il sera interdit de retirer les barres de l'Arche d'Alliance. Prescription du livre de l'Exode au chapitre 25. Un des 613 commandements, une des 613 mitzvot du judaïsme. Même quand cette arche sera définitivement installée dans le temple de Jérusalem, il sera interdit de retirer les barres, car l'arche doit toujours être prête au départ. C'est une manière de se rappeler que ce qu'elle contient est lui-même toujours prêt au départ, toujours prêt au mouvement, jamais tout à fait là où on l'attend. Il y a toujours une part d'inattendu. L'attendu, c'est la mort. L'inattendu, c'est divin. La parole de Dieu est par essence nomade, dynamique, mobile. Cette parole qui nous fonde, du coup, fait de nous aussi des êtres nomades, mobiles, jamais tout à fait arrivés, jamais arrêtés. C'est la raison pour laquelle la catéchèse n'est jamais finie. Toujours en évolution et, selon notre bonne devise protestante, toujours en réformation. Ecclesia reformata, semper reformanda. Pour illustrer cette image, je prendrai plus exactement une autre image analogue, celle du sable mouvant. Alors, pour faire un sable mouvant, c'est très simple. Il faut une terre, voilà. Jusque-là, tout va bien. Mais dans les sables mouvants, il y a aussi de l'eau, bien sûr. On dirait que c'est la poussière des travaux. C'est un peu comme Garcimore, je ne sais pas si ça va marcher. Bon. Toujours est-il que notre vie est composée d'éléments qui sont assez semblables à un sable mouvant. Et je vais essayer de vous montrer pourquoi. On va peut-être rajouter un petit peu de terre, ça ne pourra pas faire de mal. Si seulement ça pouvait faire des crêpes après. C'est bon que votre curiosité évolue. Alors, ce qui se passe avec un sable mouvant, c'est assez étonnant. Et pour prendre un témoin, je prendrai notre cher Martin Luther. Le sable mouvant a ceci de caractéristique, c'est que quand on se déplace dessus, on ne s'enfonce pas. En revanche, on s'enfonce quand on s'arrête. C'est le propre du sable mouvant. Quand vous exercez une pression et que vous avancez, vous ne vous enfoncez pas. En revanche, vous vous noyez si vous vous laissez couler. Alors, il y a là, je pense, quelque chose qui est juste par rapport à ce qu'est la vie. Quand nous nous arrêtons, nous risquons fort de nous enliser, de nous enfoncer totalement dans ce que vous appelez peut-être le marasme, en tous les cas, toutes choses qui ont tendance à nous emprisonner, à nous recouvrir, et à finir asphyxiés par les problèmes, ou par la haine qui font toujours du surplace. D'un point de vue théologique, lorsque nous disons que notre identité est cachée en Dieu, comme le dit l'apôtre Paul, c'est donc qu'elle est dynamique comme les dieux. Être caché en Dieu, ça signifie ne jamais être fiché en terre. Et vous savez que être fiché en terre, c'est le propre du paganisme. Le paganisme, qui donne païen, qui donne aussi paysan, c'est la certitude du sol. Je sais qu'on a toujours envie de dire « il faut être bien enraciné ». Ça, c'est pas biblique. C'est pas du tout biblique, le fait d'être enraciné. C'est assez mortel. Les ailes, je ne dis pas, mais les racines. La haine, pour revenir à elle, ne peut pas nous atteindre. Elle ne peut pas nous toucher véritablement dans la mesure où notre identité, notre vie, est en mouvement avec Dieu, comme l'est l'Arche d'Alliance, qui symbolise le dynamisme de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de blasphème non plus dans la théologie protestante. Parce que le blasphème est infichu de pouvoir atteindre Dieu. Parce que Dieu est au-delà des représentations que nous nous en faisons. De même que nous, nous ne sommes pas exactement ce que les autres pensent de nous. Et c'est cela que la théologie nous rend capable de comprendre. C'est cela que Dieu nous rend à même d'éprouver. Alors non, frères et sœurs, ce texte n'a vraiment rien d'anecdotique. Il dit l'importance de la théologie dans notre vie quotidienne. La théologie que nous adoptons a un véritable impact sur notre vie, sur notre rapport à ce qui vient, sur notre rapport à ce que les autres veulent faire de nous ou contre nous. Dieu change la vie, et en ce sens il est utile, parce qu'il change notre regard sur nous-mêmes et sur autrui. Il change notre regard sur ce qu'est la vie, et sur toutes les potentialités de la vie. Dieu change la vie en changeant notre regard sur les difficultés, en leur permettant de pouvoir faire ce travail de discernement qui fera que nous ne serons pas submergés par quelque chose qui nous semble immensément grand, car nous serons capables de pouvoir discerner toutes ces parties et pouvoir les affronter les unes après les autres, ou les répartir entre plusieurs personnes. Nous sommes capables d'avoir un regard pénétrant qui permet d'identifier les mécanismes de la vie. Et c'est la raison pour laquelle des passages aussi horribles que la passion de Jésus sont utiles pour repérer les mécanismes aussi qui conduisent à la violence. Non seulement pour ne pas les reproduire, mais aussi pour s'en prémunir, et ainsi de suite. ne pas être submergé par l'énormité de ce qu'il y a à gérer. Dieu change la vie en relativisant les problèmes, en remettant les haineux à leur juste place, ce qui nous libère pour une vie pleinement épanouie. Amen. Prenons le cantique 640 et chantons les strophes 1, 2 et 4. Prenons place. Quelques informations à partager. Vous avez la feuille d'annonce qui vous donne les prochains rendez-vous. J'attire votre attention sur le fait que nous aurions besoin de quelques personnes qui puissent se rendre disponibles pour le jeudi de l'Ascension pour la raison suivante. Il va y avoir le synode national organisé à Mazamet. Or, les liaisons ferroviaires vont être interrompues entre Montpellier et Mazamet. Donc, un système de cars va être préparé. Mais il faudrait pouvoir accueillir les membres du synode national qui vont arriver à la gare Saint-Roch vers 11h, par exemple, jusque vers 14h, avant qu'ils prennent une navette qui va être donc affrétée. Donc, si quelques-uns parmi vous étaient disponibles le jeudi 26 mai, pour pouvoir tenir une permanence d'accueil, on organisera aussi une petite collation pour les délégués. Ça permettrait qu'ils arrivent au synode national dans de bonnes conditions et d'avoir le temple ouvert à cette occasion. Et puis peut-être aussi le dimanche qui suivra, vers 14h par exemple. Voilà. Si des personnes parmi vous sont disponibles, qu'elles s'adressent à moi et on fera comme cela une coordination. Je vous donne quelques nouvelles d'Anne-Catherine Terme, qui va sortir de l'hôpital à la fin de la semaine. Elle sera ensuite chez elle, sous le principe de l'hospitalisation à domicile. Donc elle pourra recevoir vos appels, vos messages. C'est elle qui gérera les visites. Mais en tous les cas, vous pourrez, comme cela, lui envoyer des signes amicaux très volontiers. C'est maintenant le moment de l'offrande. eh bien, que ce soit l'occasion pour vous de donner à l'Église les moyens dont elle a besoin et ne pas refaire du surplace. Unissons-nous dans la prière. Seigneur, quand j'aurai faim, donne-moi quelqu'un à nourrir. Quand j'aurai soif, donne-moi quelqu'un à abreuver. Quand j'aurai froid, donne-moi quelqu'un à vêtir. Quand je serai dans la tristesse, donne-moi quelqu'un à relever. Quand mon fardeau me pèsera, charge-moi de celui des autres. Quand j'aurai besoin de tendresse, que l'on fasse appel à la mienne. Que ta volonté soit ma nourriture, que ta grâce soit ma force, que ton amour soit mon repos. Que toute ma vie soit une offrande perpétuellement tendue vers toi, ô Père. Et c'est avec cette tension que nous voulons dire les mots que Jésus a enseignés à ses disciples. Et nous nous levons pour dire « Notre Père qui es aux cieux ». Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, méfiez-vous des liquides non newtoniens. C'est ce qu'est un sable mouvant. Et ayez à cœur de vivre animé par cette foi qui nous permet d'ouvrir les yeux sur la profondeur de l'existence et de ne pas en être effrayé. Plus nous regardons le monde dans sa profondeur, moins nous en sommes effrayés. Voilà le paradoxe de la foi. Oui, frères et sœurs, allons avec l'assurance que Dieu nous bénit et nous garde. De surcroît, l'Éternel, le Dieu de tendresse, qui a levé Jésus d'entre les morts, nous donne son esprit de vie pour nous faire vivre ensemble à sa gloire. Présents et absents, visibles et invisibles, pour le temps et pour l'éternité. Amen.